Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et on va faire un tour de la presse ce matin. Et avant cela, qu'est-ce qui fait parler avec vous, Benjamin Glaise ?
Oui, dans les journaux, il y a le projet de loi, Benjamin, sur le séparatisme. Alors, on ne va pas l'appeler le séparatisme, puisqu'ils ont changé de nom, qui arrive en Conseil des ministres aujourd'hui.
Oui, du séparatisme à l'équilibrisme, hein, c'est le titre de Libération. Effectivement, il a été rebaptisé projet de loi confortant les principes républicains. Cependant, ce texte qui sera discuté à l'Assemblée en début d'année est hautement inflammable. Selon Libé, il pourrait diviser jusque dans les rangs même de la majorité. Même tonalité critique d'ailleurs du côté du Figaro. Macron révise ses ambitions à la baisse sur le séparatisme, dont le mot n'apparaît même plus dans l'intitulé du projet de loi. Faut-il être toujours obligé de s'excuser quand on veut rappeler à l'ordre républicain ceux qui s'en affranchissent ? C'est la question imposée dans Sans détour par Yves Tréhard dans son édito. Il reproche notamment à Emmanuel Macron d'afficher un soutien ferme à la police un jour, puis de se montrer moins affirmatif le lendemain. Yves Tréhard qui regrette des lois timorées pour affronter les promoteurs de l'islamisme qui avancent eux sans scrupule.
Oui, ce sont les fameux zigzags notés par Exactement. Arlette Chabot ce matin. On va en reparler dans un instant avec Arlette. Juste après vous. Autre actualité, c'est la culture qui est à l'arrêt, à la une de plusieurs journaux.
Mais oui, commencer par La Montagne qui titre sur cette culture qui s'impatiente. Sur place, c'est l'Orchestre National d'Auvergne qui notamment espère retrouver au plus vite un public, même masqué et en jauge réduite. Pendant ce temps, eh bien, l'Orchestre de Pau, Pays de Béarn, s'invite dans les bus. Oui, c'est ce que nous raconte l'éclair des Pyrénées, des duos de cordes qui joue à bord de ces bus. Un clin d'œil à ce décalage qu'on a pu voir parfois entre des transports en commun bondés, des salles de spectacle vidées. Une belle façon aussi d'embellir le quotidien dans ces temps un peu difficiles.
Oui, merci Benjamin. On continue avec Philippe Rioux, éditorialiste à la Dépêche du Midi, qui est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Avec évidemment le retour de la grippe aviaire, on en a déjà parlé un petit peu sur Sud Radio, et puis l'inquiétude d'un des producteurs de foie gras du coup.
Voilà, nous revenons sur ce dossier, parce qu'un cas de grippe aviaire s'est déclaré ce week-end dans un élevage des Landes, pour lequel les autorités ont donné l'abattage de 6000 canards. Alors, surtout la grippe aviaire, évidemment, inquiète les professionnels, mais qui sont toutefois mieux organisés que précédemment. Alors, on se rappelle, les deux précédentes épidémies de grippe en 2016-2017 avaient conduit à 30 000 millions de canards perdus. Donc, les éleveurs ont construit des bâtiments pour mettre à l'abri leurs bêtes. Les normes de biosécurité ont été renforcées. Et il y a une veille très sérieuse qui est faite sur le risque épisodique, pour casser tout de suite les chaînes de transmission dès qu'on les aperçoit, dès qu'on les détecte. Alors, le retour grippe aviaire touche aussi d'autres pays d'Europe, ce qui inquiète le plus les producteurs, c'est actuellement les conséquences du Covid-19, une époque de l'année avec les fêtes qui représentent jusqu'à 70% du chiffre d'affaires. Alors, les restaurants sont fermés, les repas de famille risquent d'être bousculés, voire annulés, mais la profession qui représente quand même 100 000 emplois garde quand même espoir, et comme le dit Marie-Pierre Pé, qui est la présidente du comité interprofessionnel, le foie gras, c'est quand même l'un des derniers petits plaisirs qui nous reste, et pour cette année, pour finir l'année, ça serait du bien.
Oui, voilà. Non mais c'est vrai. Il faut rappeler qu'il y a deux ans, déjà, le secteur avait été très très impacté par la grippe aviaire. Et donc, on n'a pas envie de revivre ce cauchemar du côté des producteurs, quoi, Philippe.
Absolument, ouais, absolument. C'est... Et beaucoup ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer leurs élevages, les sécuriser, pour éviter justement ces contaminations qui viennent par les oiseaux migrateurs.
Oui, par les oiseaux migrateurs, absolument. Merci beaucoup, Philippe Rioux. Des dossiers très intéressants à lire ce matin dans la Dépêche du Midi.
Restez avec nous, le petit déjeuner de l'actu ce matin avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel, vos appels 0826 300 300.
Oui, on va parler des zigzags donc avec Arlette Chabot, c'était une bonne formule qu'on avait ce matin sur oui j'y vais pas, on va voir ça dans un instant, mais avant cela Elisabeth, vous vouliez souligner, vous étiez étonnée par ce qui se passe au procès Sarko et vous sur ces 4 ans, le réquisitoire 4 ans dont 2 ans avec sursis, ce qui veut dire normalement, 2 ans ferme, quoi.
Oui, et étonné, je reconnais bien là votre flegme britannique, Patrick, je ne suis pas étonné, je suis révolté et sidéré, si vous voulez, parce que ça me paraît tout de même cette volonté, alors je ne sais pas si ça ira jusqu'à cette condamnation, mais 2 ans, ce sont des peines effectuées, sur le papier, ça voudrait dire que les procureurs demandent en fait l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Et je m'aperçois dans le réquisitoire que notamment ce qu'on lui reproche en fait, c'est divulgué, eu accès et divulgué des informations si vous voulez, secrète. Et là, si vous voulez, les bras m'en tombent parce que, écoutez, on a une justice qui se tient à ciel ouvert. Hein. Mediapart a accès absolument, ou Le Monde, ou les autres, mais c'est souvent Mediapart ou Le Monde, ont accès tout le temps, si vous voulez, à des dossiers d'instruction. Mmh. On voit s'étaler dans la presse des choses qui sont supposées être couvertes par le secret, et là, il n'y a jamais la moindre sanction. Alors, tout d'un coup, quand c'est Nicolas Sarkozy, ça devient très grave. Et puis, je m'interroge, si vous voulez, sur cette affaire d'influence qui devient un pacte de corruption. Arlette, c'est ça ? Je me rappelle plus le nom de l'incrimination. Hein, mais écoutez, il faut être un peu raisonnable. Que des gens passent des coups de fil en disant « Ah bah tiens, celui-là, il est bien, ce serait bien de l'embaucher. » Et que quand c'est des gens qui ont exercé des responsabilités, ça me paraît... À vrai dire, je pense que ça existe tout le temps et ça ne me paraît pas absolument.
C'est vrai, mais on
scandaleux. Ce qui serait peut-être scandaleux, si vous voulez, c'est que effectivement, on est nommé X ou Y ou Z de cette façon. Mais encore, si vous voulez, cette question de l'influence, elle est au cœur de notre vie publique.
Ouais. Ce que reprochent les magistrats, c'est le caractère aussi exemplaire, parce que de Nicolas Sarkozy, quoi. Et alors, je ne sais pas si on doit aller jusque là. On verra bien.
Ils veulent faire un exemple, justement. Et c'est bien. Eh ben non, mais je rebondis juste sur votre mot. Ouais. Pardonnez-moi, Patrick. C'est pas leur rôle. Les juges ne sont pas des professeurs de morale qui doivent nous montrer. Regardez celui-là. Mmh. Regardez. Hein. Si vous êtes pas sage, vous arrivera la même chose qu'à Sarkozy. Non, les juges sont là pour juger des faits, si vous voulez. Là, vraiment, je suis outré, mais je crois que Yves avait...
Yves de Carvalho.
Je suis curieuse de savoir ce qu'il va nous dire.
Oui, Yves.
Non, mais je partage totalement le point de vue d'Elisabeth. J'ajouterais que, quand même, cette année, on a eu un ancien Premier ministre, François Fillon, contre lequel le parquet a demandé également de la prison ferme. On a eu trois anciennes personnalités politiques dans le procès Karachi, dont Nicolas Bazire, pour lequel le parquet a demandé également 3 ans de prison ferme. Je veux dire, jusqu'à quand on va s'amuser à ce jeu de chamboule-tou où on va tirer sur tous les hommes politiques et souvent pas les plus mauvais. Est-ce que on veut avoir une France qui soit indéfiniment dirigée par des Castex ? Non, mais je veux dire, on va à force effectivement de dégoûter, de tirer sur la classe politique, de libérer parallèlement Balkany, qui lui devrait être toujours en prison. Je ne comprends plus cette justice. Je ne comprends plus. Je suis désolé.
Bon, de toute manière, on va voir. Là, c'est le réquisitoire. Ensuite, le procès n'est pas terminé hein, pour l'instant. Arlette, d'un mot peut-être, non ?
On est toujours partagé. La justice fonctionne aussi à l'égard des politiques qui ont bénéficié pendant des années d'impunité. On va s'en réjouir. C'est très bien de la transparence. Jusqu'où aller, ça c'est une question, mais quand même une justice qui fonctionne et qui touche les citoyens de la même façon, c'est bien. Sauf que, on peut s'en réjouir, mais il y a effectivement des questions.
Ouais.
Parce que si on continue à penser que les magistrats veulent se payer des politiques pour les inscrire à leur tableau de chasse, et si on s'interroge sur les méthodes du parquet financier, on est moins satisfait. Donc on n'est pas très à l'aise, finalement, effectivement, avec... ce procès, personne n'est au-dessus des lois, comme le disait lui-même Nicolas Sarkozy. C'est vrai, tant mieux. Et en même temps, si les magistrats pensent qu'ils peuvent effectivement pousser très loin, trop loin des investigations pour être sûr de planter un politique, ça, évidemment, on n'est pas bien.
Ouais. Voilà. Bon, on va reparler un petit peu plus tard, peut-être, du coup, des zigzags, parce qu'on arrive, en fait, à l'heure pour les infos de 9h. Et puis, on parlera aussi du mauvais classement, quand même, de la France, notamment en maths. Pourquoi sommes-nous si nuls, en fait, aujourd'hui ? Et Laurent Lafaure, qui était notre invité tout à l'heure, médaille Field, quand même, il y a quelques années, a dit que n'y a pas de hasard. Si les pays, notamment de l'Extrême-Orient, de l'Asie, maîtrisent parfaitement, en fait, aujourd'hui, maîtrisent en partie aussi et contrôlent l'épidémie de Covid-19, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'avec leurs modèles qui sont appliqués et qu'eux sont en tête du classement, justement, des maths, il dit que ce n'est pas un hasard. Et si nous, on est à la traîne, il y voit directement un lien. Il était formidable. Vous pouvez le réécouter d'ailleurs en podcast. Il était avec nous tout à l'heure à 8h10. On y reviendra avec cette fois Jean-Paul Brighelli qui sera avec nous dans 5 minutes.
Et vous pourrez nous appeler 0826 300 300.
Et ensuite la laïcité évidemment jusqu'à 10h.
Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
C'est le moment de nous appeler à 9h03, 0826 300 300. Vous voulez débattre avec Arlette Chabot, Yves de Cardrel, Elisabeth Lévy. Bien entendu, on va parler ce matin de la laïcité, on va parler des mathématiques dans quelques instants et on va prendre directement Thierry de Dijon qui est avec nous ce matin. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour Thierry.
Bonjour, vous allez bien ?
Ah bah écoutez, nous, ça va dans le contexte en fait du moment. Et vous, mon cher Thierry, vous voulez nous parler justement de la crise actuelle en France ?
Oui, un tout petit peu. Alors, pas forcément un coup de gueule, mais un constat et quelques questions. Malheureusement, je peux pas avoir affaire à nos élus et nos représentants. Donc, c'est toujours compliqué de se faire entendre. Et malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, trop de personnes sont pas entendues. Et quand je parle de ces personnes, c'est les CSP modestes moyennes qui représentent une grosse partie de la population française.
Ouais, c'est vrai, oui.
Non, mais très clairement. Et donc, du coup, bon, je vais être beaucoup plus synthétique que ce que je voulais argumenter. Hein.
Ouais,
J'ai un peu moins de temps, mais. c'est pas grave, je comprends. Hein.
Ouais,
et merci encore de me laisser la parole, d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Ah ben non, mais juste une parenthèse, hein, Thierry. On essaie de vous donner au maximum la parole. Alors après, il faut qu'on la distribue pour les uns et les autres. Mais pour pouvoir vous exprimer, quelles que soient, en fait, vos opinions.
Ça nourrit le débat.
On est un média, en fait. C'est ça, quoi. Donc, bon, après, on est là pour essayer de réguler un petit peu aussi pour que ça aille pas que dans un sens, que ça aille dans un autre et qu'il y ait des propos. Enfin, voilà. Mais vos propos sont libres.
Et effectivement, mais en fait, quand je vois que lors de la première période de restriction de liberté, qu'on appelle un confinement au mois de mars-avril, en essayant de prendre contact avec beaucoup d'acteurs médias et politiques, Mediapart notamment, je veux dire. Ben en fait, au final, personne ne répond, à part éventuellement ben, adhérer, ensuite vous pourrez vous exprimer. Je veux dire, c'est une aberration quand même.
Ouais, ouais, ouais.
Et pour autant, bon, ce qui est cool avec vous, c'est que vous êtes plutôt libre sur la manière dont on peut s'exprimer. Donc, encore merci.
Ouais, ouais.
Moi, très brièvement, hein, parce que je vais pas forcément m'étaler trop, c'est trois choses que j'aimerais aborder. C'est déjà, est-ce que le contexte Covid n'est-il finalement qu'avant tout liberticide ? Deuxième point, est-ce qu'il facilite des réformes qu'on pourrait qualifier en catimini ? Et puis le dernier point, pour qui est-il finalement favorable ? Avec peut-être une question en clôture, c'est sur les responsabilités, où j'écoutais juste avant les quelques minutes consacrées à M. Sarkozy, où je trouve... Attendez une seconde.
Oui, oui. Non, mais votre question, effectivement, Thierry, c'est est-ce que ce contexte permet de faire passer aussi des réformes ? C'est quand même délicat, difficile, en fait, à dire. Je ne sais pas si Elisabeth est avec nous, Elisabeth Lévy.
Non, je ne crois pas que le gouvernement profite du Covid, disons, pour nous asservir, hein, si c'est ça, votre idée. Je crois, moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'ils paniquent. Si vous voulez, ce que je leur reprochais, c'est plutôt de prendre des décisions de façon erratique, un jour ceci, l'autre jour cela. Je ne crois pas que c'est par goût qu'ils restreignent nos libertés. Par ailleurs, vous demandez à qui ça profite, dans n'importe quelle crise. Si vous voulez, il y a des gens qui en profitent non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont sur les secteurs importants. Par exemple, il est clair aujourd'hui, si vous voulez, que pour les marchands de vaccins, la conjoncture est plutôt bonne.
Mais oui, non, mais il y a aussi
des. Je ne crois pas qu'il faille.
C'est vrai. Il y a peut-être aussi des entreprises, le monde économique, hein, Yves de Cardrel.
Supermarchés. Les supermarchés, si vous voulez, se sont plutôt bien portés pendant cette crise. Mais je ne crois pas qu'il faille, si vous voulez, dire que. Tout ça, c'est fait pour ça, si vous voulez.
Je crois que tout le monde Yves de Cardrel, d'un mot, parce qu'on dit que des grandes entreprises, des grands groupes, parfois, font passer en fait leurs plans et que finalement, cette crise est, entre guillemets, la bienvenue pour ça.
C'est possible.
Oui, c'est sûr qu'on a vu à la fin de l'été, notamment en septembre, un certain nombre de plans sociaux qui ont été annoncés comme étant les conséquences du premier confinement et qui en fait étaient des plans de restructuration qui étaient dans les cartons de ces grandes entreprises depuis quelques mois. Et qui ont été dévoilés à ce moment-là. Et je pense que on va assister à une deuxième vague de plans sociaux dans les mois qui viennent, une fois qu'on sera sorti de ce deuxième confinement. Mais bon, c'est assez classique. En nombre, c'est pas terrible sur le plan éthique. J'en conviens. Mais en nombre de personnes concernées, ça concerne qu'une toute petite partie des 700 000 nouveaux chômeurs qu'on a vu malheureusement arriver à Pôle emploi au cours du troisième trimestre.
Ah ouais, absolument. Bon, bah merci Thierry pour la question, et vous pourrez continuer de vous exprimer évidemment et d'appeler sur Sud Radio, notamment tout à l'heure où on va parler de la laïcité, du séparatisme avec nos deux invités. Avant ça, donc, coup de fil aussi à Jean-Paul Brighelli.
Oui, professeur de lettres et essayiste et spécialiste des questions d'éducation, auteur de La Fabrique du Crétin est avec nous ce matin. On va parler mathématiques.
Oui. Bonjour Jean-Paul Brighelli.
Bonjour.
Bon, vous n'avez pas dû être surpris par ce classement qui indique que les élèves français sont les bons derniers d'Europe en mathématiques. Alors là, c'était concernant les CM1 et avant-dernier sur la classe de 4e. Bon, après, il y a beaucoup de détails. Est-ce que, j'imagine donc que vous n'avez pas été surpris, mais d'où cela vient selon vous ?
Ah bah écoutez, La Fabrique du Crétin, je l'ai écrite en 2005. Mmh. Personne ne m'a cru. Tout le monde a dit que j'étais alarmiste, populiste, fasciste, enfin tout ce que vous voulez. Tout ce que j'ai annoncé à l'époque s'est réalisé depuis. J'ai la sensation d'être Cassandre, vous savez, de dire des choses exactes que personne ne croit. Mmh. Je suis sidéré que les gens soient sidérés. Mmh. Parce que c'est évident qu'avec des pédagogues qui laissent les enfants acquérir tout seuls les notions, construire eux-mêmes leur propre savoir, comme il est dit, travailler en autonomie, en îlot, etc., ils les prennent tous pour, vous savez, Blaise Pascal, qui à 10 ans avait retrouvé les 12 premiers principes d'Euclide tout seul. Bon, mais c'était Pascal. Nous, on a l'élève standard, ordinaire, vulgum pecus, etc. Et bien sûr qu'il peut pas trouver. Ouais. Bien sûr que les 4 opérations de base que certains ici, les plus, on va dire les plus mûrs, hein, ont apprises quand ils étaient au CP, sont actuellement distillées entre le CP et le CM2. Ouais. Vous êtes penché sur la façon dont on enseigne actuellement la division par soustraction successive, on en a pour la vie des rats. Bon, mais ça ne peut pas marcher. Ouais. Et en même temps, on sait très bien ce qui marche. On sait, par exemple, que la méthode de Singapour marche très très bien.
C'est quoi la méthode de Singapour, pour les auditeurs?
C'est une méthode qui est faite sur des manipulations. C'est la grande idée du duo Villani-Torassian, qui a remis un rapport en ce sens à Blanquer, qui n'aura pas le temps parce qu'il a autre chose à faire et puis parce que il a l'île de France à conquérir. De l'appliquer, et on va à nouveau vers le gouffre, ce qui est très inquiétant, et encore plus inattendu alors dans le
classement,
le rapport Teams, qui confirme le rapport PISA, qui confirme le rapport CEDRE. On n'arrête pas de faire des rapports, vous savez, en France, quand on n'a pas d'idée, on fait des rapports. Et ce qui est très inquiétant, c'est le tout petit nombre d'élèves, on va dire, bons. À Singapour, sur 100 élèves, vous en avez 57 qui sont au-dessus de la moyenne. Nous, on en a 3. Voilà. C'est-à-dire que on est arrivé, à force de haïr l'élitisme, à force de tout ramener vers le bas, de descendre la barre sans cesse, on est arrivé à détruire le petit groupe de bons élèves qui étaient susceptibles de hisser leurs camarades au-dessus du niveau de la mer.
Ouais, ouais.
Voilà. On en est là. Et ne comptez pas un seul instant que ça va s'arrêter. Ça va s'aggraver. Et ce qui se passe en maths se passe également en français, parce que vous avez des instits qui viennent de secteurs de sociaux, psycho, master MEF, métier de l'enseignement, etc., qui ne connaissent rien, ni aux maths, ni à la syntaxe, ni à l'orthographe. Hein. très bien, on les a recrutés. Les syndicats veulent d'ailleurs qu'on en recrute davantage, qu'on qualifie ceux qui
ont
été
recrutés. Donc il y a un problème de formation des professeurs, alors.
Il y a un problème de recrutement, on ne recrutera personne à 1500 euros par mois.
Ouais,
c'est tout. Ça fait 10 ans que je demande qu'on augmente de 50% ceux qui commencent dans le métier.
Ouais.
Les syndicats demandent un rattrapage du point d'indice, 0,5%.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils veulent bien être enculés, mais avec la vaseline.
Oh là,
ça marche pas, vous voyez.
Elisabeth veut vous poser une question. Elisabeth,
Il y a des enfants qui écoutent.
Oui, non, pas à cette heure-ci. Normalement, ils sont allés. Ah, quoique, on est mercredi.
C'est mercredi. Non, il y a beaucoup de questions.
Non, mais une.
Rappeler. D'accord, alors à ce moment-là, vous nous dites que ça ne va pas changer, il me semble. Cependant, j'entends tout à fait ce que vous dites. Alors, une question qui en comporte deux. La première, c'est est-ce qu'il n'y a pas l'irruption de la société à l'école, des demandes des parents qui veulent qu'on donne le bac aux enfants, etc. Et la deuxième chose, tout de même avec Jean-Michel Blanquer, il y a eu un changement de discours. Il y a eu quand même des mesures au moins sur la laïcité. Donc est-ce qu'on est toujours dans la logique jospinienne de l'enfant au centre de l'école? Est-ce que vraiment il n'y a pas d'espoir?
Ah ben écoutez, il faut aller voir dans les INSTE, vous savez, il y avait les IUFM, puis il y a eu les SP, puis maintenant il y a les INSTE, ce sont les mêmes qui sont aux commandes.
Vous devez expliquer là, je crois.
N'a pas voulu révoquer 300 personnes. C'était absolument nécessaire, au moins les révoquer. Moi je les aurais pendus, mais les révoquer suffisait. Il n'a pas voulu, c'est pas possible, ils sont protégés par leur fonction, et bien ils continuent à faire des dégâts absolument colossaux. Actuellement, il est question, par exemple, de faire un seul corps d'inspecteur, etc. Mais c'est très tard. C'est très tard, et de très tard, on passe à trop tard.
Oui, bon, il faudrait une réorganisation. Et puis, c'est vrai qu'il y a, par exemple, c'est ce que me fait remarquer Christine Bouillot, la suppression des maths en terminale au bac, sauf si l'élève le prend comme en option,
c'est un problème.
Ça va peut-être pas améliorer forcément les choses, quoi, Jean-Paul Brighelli.
C'était pas tellement... C'est pas à ce niveau-là que ça se passe.
Non, ouais.
Parce que, à l'extrême limite, c'est le seul point positif du gouvernement Blanquer, c'est la réforme du bac qui permet justement de ne pas faire de maths à des gens qui n'ont aucune aptitude à ça. Les gens qui prennent les options maths en terminale actuellement sont ceux qui sont assez forts pour entrer en classe préparatoire.
Bon, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à redire. Arlette Chabot, ça fait juste des années.
C'est très fatigant ce pays. Il est très, très, très fatigant parce que ça fait effectivement 15 ans sur tous les sujets à peu près qu'on répète la même chose. Alors c'est vrai, quand on confie à Cédric Villani un rapport Médaille Field sur l'enseignement des mathématiques, on adorerait qu'un jour, effectivement, des gens compétents écrivant un rapport intelligent, on ait une traduction dans la réalité. Ça serait formidable, parce que vous pouvez prendre tous les sujets qui concernent toutes les faiblesses françaises. Vous avez toujours des gens formidables qui écrivent des textes formidables, qui disent tous la même chose, et il ne se passe rien ou presque.
Et puis, de temps en temps, écouter des personnes aussi comme Jean-Paul Brighelli, quand même, qui, alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais il avait quand même lancé l'alerte avec la fabrique du crétin. Merci, Jean-Paul Brighelli, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.
Et bonne matinée à tous et à toutes.
Oui, avec pas mal de messages ce matin. Martine qui nous dit, en primaire, les enfants sont notés avec des couleurs, pourquoi pas des chiffres. De mon temps, on avait des récompenses à l'école. Au début de l'année, mon petit-fils faisait du coloriage en 6e, donc effectivement, ça pose quand même pas mal de soucis. Et on continue, vous nous appelez à 0826 300 300. Il revient dans un instant.
Le gagnant du jeu, évidemment, Yamaha, bien sûr.
Les écouteurs sans fil.
Oui, bien sûr. Oui, non, c'est pas la moto.
Peut-être plus tard, on ne sait jamais. C'est Eric qui nous appelle de Montpellier. Bonjour, Eric.
Oui, bonjour, Sud Radio. Comment je vous appelle de Montpellier.
Et comment ça va? Quel temps fait-il ce matin?
Écoutez, il fait beau, un petit peu de vent, et je pense qu'on va aller se promener, faire un petit tour au bord de la plage.
C'est bien. Donc vous ne travaillez pas aujourd'hui?
Attestation.
Ah, je travaille que à 11h. Voilà.
C'est bien. Et vous faites quoi dans la vie?
Et on va profiter de ce beau temps, et à moins de 20 km, donc on peut, on peut aller se promener.
Il est dans les normes. Vous faites quoi dans la vie, Eric?
Moi, je suis coach sportif.
Ah, très bien. Oui. Bah, venez, parce qu'on a besoin de vous, là. Venez vite. Venez vite, s'il vous plaît. Eric Bonneau, vous avez gagné des écouteurs sans fil Yamaha. En tout cas,
vous avez gagné un stage. C'est Cécile qui a gagné un stage avec vous, Eric.
Oui, c'est plus possible.
Ah, d'accord, okay, pas de problème.
Il faut que ça s'arrête. Au secours, Eric. Merci, en tout cas, vous nous écoutez depuis longtemps, Eric.
Ah, j'écoute très régulièrement Sud Radio. Voilà, j'aime bien les émissions et voilà, et quand je peux, je participe.
Voilà, ben voilà. Maintenant vous allez avoir des écouteurs sans fil, donc vous pourrez être branché 24 heures sur 24. Et ils sont malins à Sud Radio. Hein. Merci beaucoup de nous écouter, Eric.
Je vous remercie et bonne journée, bonne fin d'année. Voilà. Bonne fin d'année.
Et allez, bonne fête de fin d'année. On vous embrasse, Eric, à bientôt. Bougez
allez,
pas.
Le projet de loi confortant les principes républicains, il est présenté ce matin au Conseil des ministres. On en parle jusqu'à 10 heures sur Sud Radio. Avec Éric Diard, notamment, qui sera avec nous. Et puis Jean Bobéro aussi, historien de la laïcité, qui a écrit une lettre à Emmanuel Macron.
À tout de suite, 9h18.